Un autre regard avec le dispositif inclusif du Val du Loir.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Un autre regard, réalisée en partenariat avec le dispositif inclusif du Val-de-Loire, intégré à l'école Gabriel Legras à Montval-sur-Loire. Et pour ce numéro, je reçois Adeline Léon, éducatrice, Émilie Dupont, aide médico-psychologique et Jean-Baptiste Poirier, enseignant. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, une émission qui existe pour la seconde saison. L'an dernier, nous mettions à l'honneur les enfants qui sont dans votre classe et les enregistrements que vous faisiez avec eux. Et bien, cette année, on a décidé déjà de peut-être présenter la structure et tout au long de l'année, de mettre à l'honneur les projets que vous avez avec vos jeunes. Le dispositif inclusif du Val-de-Loire, avant on l'appelait l'IME pour les gens qui sont restés dans ce nom, l'IME, Institut
Médico-Éducatif.
Donc maintenant, ça a changé, voilà, il y a beaucoup de termes comme ça qui changent. Ce dispositif est à Château-du-Loire, Montval-sur-Loire, depuis quand, vous le savez ?
L'IME, elle a été construite et inaugurée en 2018.
Une construction en 2017,
ça. Mais les services étaient déjà là avant.
Oui. La classe sur l'école du Gabriel Legras a ouvert en 2014, septembre 2014. C'était sa première année et son inauguration.
Voilà, qui était encore l'école du point du jour à l'époque.
Alors, c'est intégré, je le disais, à l'école Gabriel Legras en milieu ordinaire. C'est important, c'est une bonne chose.
Oui, c'est la principale richesse de notre classe, c'est de pouvoir bénéficier de tout ce que les enfants ordinaires ont et qui leur est proposé, c'est-à-dire des temps communs comme on y pense peu, mais les récréations, la cantine, les moments d'arrivée à l'école, de départ, voilà, et puis bien sûr toutes les petites choses qui peuvent être faites au sein d'une équipe, que ce soit avec mes collègues éducatrices et puis les enseignants et AESH de l'école.
Moi, je voudrais rajouter que depuis un an, on a un partenariat avec la mairie qui nous autorise à mettre les enfants dans périscolaire et du coup, ils peuvent être inscrits en périscolaire. Donc, on remercie aussi la municipalité pour l'ouverture du périscolaire et des centres de loisirs aussi. Les enfants sont inscrits en centre de loisirs aussi.
Je voudrais juste finir en disant que ça permet aussi aux enfants qui sont inscrits dans des écoles ordinaires d'avoir justement un autre regard sur le handicap. Parce que du coup, ils sont au quotidien avec nos jeunes. Ils sont copains, quoi. Pour certains, ils sont copains. Ils jouent ensemble. Voilà. Et ça, c'est bien.
Ça fait partie de leur quotidien. Voilà, c'est des élèves, on va dire, peut-être un petit peu différents. Mais ils jouent avec eux, ils se côtoient. Donc,
c'est ça. Ouais. Dans la cour de récréation, ils jouent tous au ballon. Il n'y a pas de différence à ce moment-là.
Je dirais que c'est un autre regard qui va dans les deux sens. Pour les enfants de l'école ordinaire comme pour les nôtres, ça leur permet aussi de côtoyer des jeunes peut-être pour qui les choses sont plus faciles dans la journée à réaliser. Ça leur apporte aussi un petit peu une différence de rythme qui permet à tout le monde d'avancer ensemble.
Et ce dispositif compte trois établissements, c'est ça, qui sont dispatchés sur tout le territoire du Sud-Sarthe?
Je dirais plutôt deux établissements, l'IME de La Flèche, qui fait partie aussi du même IME que celui de Montval-sur-Loire. Donc tout ça, ça constitue un IME. On inclut aussi le CESAD, donc le service ambulatoire à domicile, qui intervient aussi dans les écoles, dans ce dispositif maintenant, un dispositif inclusif qui inclut ces trois choses-là.
Alors vous, vos enfants, ils ont quel âge dans votre classe, là, Gabriel Legras?
Ces enfants qui sont accueillis à partir de 6 ans jusqu'à 11 ans ou 12 ans, tout dépend. On a rarement des enfants qui arrivent à 6 ans, mais là actuellement le plus jeune, 7 ans.
Et après ils rentrent dans une autre structure équivalent au collège, c'est ça ?
Alors tout à fait, notre dispositif inclusif donc accueille les enfants de 6 à 20 ans, hormis quelques exceptions. Mais donc au-delà de la 11e année, comme le disait ma collègue, on a le même dispositif, qui une classe inclusive sur le collège du Lude, donc qui permet encore une fois d'apporter une continuité dans la scolarité de l'enfant avec une proportion plus ou moins importante selon les enfants, mais en milieu ordinaire. Donc ce sera là sur le collège du Lude.
Et ensuite, il y a aussi le service des 15-20 ans qui, eux, sont également accueillis ici au sein du LP, également en classe inclusive.
Et vous avez une classe de combien ? J'imagine que c'est pas des effectifs comme des classes ordinaires. C'est des enfants qui demandent beaucoup d'attention. Donc, faut vraiment s'occuper d'eux beaucoup plus, qu'on va dire, à titre personnel, qu'un enfant en CM1, par exemple.
Oui, tout à fait. On a un effectif, un agrément sur la classe de 10 places. Cependant, en fonction des profils des enfants et des capacités et des besoins des enfants, on adapte. Et là, cette année, on accueille 8 enfants sur la classe qui sont, en fonction de leurs besoins et des emplois du temps, sont un petit peu à l'IME et en classe aussi. Les emplois du temps sont vraiment individualisés. Aucun des 8 enfants a le même emploi du temps.
Voilà. Alors justement, comment ça se gère ça? Ils n'ont pas le même nombre d'heures que les enfants en classe ordinaire. Des fois, ils peuvent être absents selon les pathologies pour certains, les difficultés rencontrées. Comment vous gérez au quotidien la présence, les activités? Il y a de l'enseignement, évidemment, c'est un enseignement différent. Comment on gère ça? Comment on s'organise?
Bah déjà, on est beaucoup. Enfin, on a un effectif de professionnels quand même assez conséquent. Je m'entends parce qu'on est toujours un peu à chercher quoi du temps. Et donc, en fait, on est plusieurs professionnels. Donc, Jean-Baptiste, l'enseignant, Adeline, l'éducatrice de la classe, et moi, qui interviens sur la classe et sur l'IME. Donc, en fait, on fait des allers-retours entre l'IME et l'école. Les enfants viennent en taxi. Quand ils ont des séances chez un thérapeute orthophoniste ou psychomotricien, etc., et ben ils y vont en taxi, voilà, on s'adapte. C'est difficile de faire les emplois du temps pour la rentrée à chaque fois, mais
c'est une grande gymnastique d'esprit pour de cerveau aussi pour les professionnels, parce que c'est vrai qu'on essaie de créer des groupes en fonction des besoins, des spécificités et surtout des besoins des enfants. Au sein du groupe classe, Jean-Baptiste peut avoir 2 ou 3 jeunes pour certains apprentissages. Moi, je vais faire une activité avec 2 ou 3 autres jeunes, et Emilie a 1 ou 2 autres jeunes à l'IME, et c'est vraiment individualisé pour aller au plus près des besoins des enfants et favoriser l'inclusion au final, soit à l'école ou bien dans une classe ordinaire.
Moi, je rajouterais que c'est un petit peu la quête permanente du dosage parfait pour l'enfant, de ce qui peut être fait avec lui de manière individuelle, en un pour un, nous on le dit souvent, ou dans un petit groupe, que ce soit 2, comme le disait ma collègue, 3, 4, 5 enfants, souvent maximum. Il peut arriver qu'on fasse plus, mais ce sera des temps très rituels, les lectures d'albums, la date du matin, la météo, mais vraiment les temps d'apprentissage importants qui vont mobiliser d'autres compétences. Donc on va se regrouper par 2, 3 enfants, comme je le disais, et puis on va voir un petit peu l'évolution, hein, comme pour tout enfant ordinaire, même pour tout enfant. Voilà, où est-ce qu'il en est dans ses acquisitions de compétences? Est-ce qu'il peut continuer à suivre aussi bien ce groupe-là? Et puis, nous, je dirais que c'est là qu'est le défi, c'est que vont venir par-dessus ça un petit peu des difficultés supplémentaires qui vont être finalement la disponibilité de l'enfant dans l'année, qui peut des fois d'un coup, sans nous toujours qu'on en trouve l'explication rapidement, mais pourquoi l'enfant ne devient plus disponible à telle période de l'année, pourquoi là il refuse le groupe. Alors là, ben voilà, il faut se réajuster. C'est vraiment la force de cette équipe et de nos dispositifs, c'est comment là on peut remettre l'enfant en confiance pour lui permettre progressivement de revenir sur les groupes d'apprentissage avec d'autres, parce que je trouve toujours ça beaucoup plus porteur d'apprendre à plusieurs, hein. L'empathie, les neurones miroirs, avec l'autre, on se découvre aussi soi-même. Donc c'est pour tout ça que ce travail il est passionnant, c'est comment on vient dans l'année étayer le travail avec l'enfant et lui permettre d'être à l'aise dans ce groupe pour pouvoir, comme on le fait vraiment cette année de manière plus importante, même sortir de la classe et aller travailler dans les classes ordinaires de l'école Gabriel Legras.
Et de quel handicap souffrent les enfants que vous avez? C'est cognitif, c'est des problèmes mentaux, physiques aussi? C'est quel handicap que vous rencontrez?
Alors, on a essentiellement des enfants avec une déficience intellectuelle. Alors, elle est plus ou moins profonde. Elle est parfois avec des troubles du comportement. Pas forcément, mais parfois, c'est accompagné de troubles du comportement. On n'a pas forcément le diagnostic des enfants parce que parfois, ça peut être une prématurité avec un manque d'oxygénation du cerveau. Parfois, c'est des maladies qui sont bien, par contre, diagnostiquées. Voilà, nous, l'intérêt est plutôt le diagnostic. On dira, on passe au-dessus et voilà, on prend où en est l'enfant et on l'emmène à grandir au plus loin et au maximum de ses capacités.
Vous avez des enfants, par exemple, qui ne parlent pas?
Oui.
Oui, tout à fait.
Pour l'enseignement, c'est une approche différente?
C'est d'autres biais, parce que par-dessus la question du langage, il va aussi y avoir celle finalement des capacités, hein, qu'on peut vite déceler chez l'enfant et qui peuvent être des fois aussi assez développées. C'est la force d'avoir une équipe pluridisciplinaire comme mes 2 collègues qui sont là et d'autres qui n'ont pas pu venir. Mais c'est par exemple, moi très tôt, on m'a appris la langue des signes en macathon. Je pense à Émilie qui était là, qui a ramené ça dans l'équipe. Il peut y avoir l'utilisation de tablettes pour aider l'enfant. On a une collègue orthophoniste qui va nous fournir aussi des outils qui permettent de travailler le langage, mais autrement qu'en passant par l'oral. Et ça permet à un moment de non seulement comprendre les besoins, on va dire, les plus importants de l'enfant, mais de lui permettre progressivement de s'exprimer, de nous donner voilà ses envies. On a vu, alors des fois c'est plus complexe selon les années, mais certains jeunes n'ayant pas forcément le langage comme nous on l'entend, qui fonctionne par écolalie, c'est-à-dire répétition de mots ou autre, mais en travaillant autrement d'autres méthodes, qu'on peut aussi retrouver en milieu ordinaire, hein, mais voilà, qui vont plaire à l'enfant et à amener, on va le voir, un niveau des fois de compréhension, de lecture de textes courts ou autres, et finalement ça peut se faire. Il y a vraiment, dans ce métier-là, c'est ça qui est passionnant, c'est de voir tous les enfants, souvent avoir des petits déclics, alors pas forcément lecture-écriture, mais d'avancer à leur rythme, qui ait le langage ou non, qui ait des fois, au départ même, l'envie d'être avec nous, ben voilà, on passe toutes ces barrières pour réussir.
Oui, c'est ça, la communication, elle passe pas simplement par l'oral, finalement. Non. Des fois, juste par le regard, on arrive à comprendre l'enfant dans sa difficulté ou dans sa problématique de l'instant. Et aussi, bah, du coup, par plein d'autres outils qui sont porteurs et que nous, on essaye d'amener, en tout cas, avec les enfants avec qui on travaille.
Vous êtes formés aussi, j'imagine, à gérer des crises. Un enfant peut se mettre à hurler ou être pas bien, partir dans son délire, ça peut arriver. Je pense qu'il y a ça aussi, gérer l'enfant pour pas qu'il se fasse mal, qu'il fasse mal aux autres, ça peut arriver.
Oui, oui, tout à fait. Alors après, j'ai envie de dire, les formations, c'est de la théorie. Sur la pratique, en effet, chaque situation est différente. Et du coup, la crise ou la situation de crise est toujours différente à gérer. Et on s'adapte. De toute façon, j'ai envie de dire, notre quotidien, c'est l'adaptabilité. Mmh. Et s'adapter au quotidien, notamment en gestion de crise, c'est protéger l'enfant qui pourrait se faire du mal, protéger les autres enfants de ce qu'ils peuvent voir, de ce qu'ils pourraient prendre en coup, et puis nous protéger aussi à ce moment-là et ne pas se faire mal pendant la gestion des crises.
Je te rejoins surtout, et puis encore une fois, une autre force des dispositifs inclusifs et notamment de notre fonctionnement d'équipe, c'est que pour avoir échangé avec beaucoup de collègues du milieu ordinaire qui vivent aussi des fois des situations très compliquées de violence, nous on a la chance d'avoir une équipe nombreuse, au moins avec qui on peut en parler, puisque c'est dans les pratiques souvent des dispositifs inclusifs, on a des temps de réunion, des temps informels qui nous permettent d'échanger, de ne pas garder ça pour soi, et puis de se remettre en question, voilà pourquoi à tel moment il y a pu y avoir une crise, même si des fois on n'arrive pas encore une fois à mettre le doigt dessus, mais on se dit, peut-être que tel événement a conduit à ça, et on avance vraiment ensemble comme ça. J'insiste parce que on sous-estime des fois l'importance du travail d'équipe dans nos dispositifs, c'est capital, de pouvoir non seulement en échanger, mais avancer ensemble pour que les enfants puissent encore une fois être mieux.
Et vos enfants, ils ont le même nombre d'heures qu'un enfant en classe ordinaire à Gabriel Legras, ou c'est des horaires plus réduits, un emploi du temps plus restreint?
Là, encore une fois, on adapte en fonction de la fatigabilité des enfants. On a des enfants qui sont à temps complet et donc qui ont un emploi du temps comme un enfant ordinaire, 8h30, 16h30. On a d'autres enfants où on adapte le temps, où c'est plutôt des temps partiels en fonction des prises en charge des thérapeutes, en fonction aussi de ce que nous, on travaille et de ce qu'on veut... où on veut faire avancer le jeune, mais on est vraiment sur de l'adaptation plus, oui. Et tous les jeunes n'ont pas un temps plein sur le dispositif.
Et garder leur attention au quotidien, j'imagine que c'est des phases d'activité assez courtes, il faut diversifier, j'imagine, ce que vous leur proposez pour que l'attention avec l'apprentissage se fasse aussi.
Oui. Oui, en effet, c'est des temps d'activité qui sont courts. On va pas proposer un temps d'une heure à un jeune qui a une concentration petite. Mais du coup, en effet, on fait un quart d'heure ou une demi-heure et puis on passe à un petit enjeu et on refait sur autre chose. Enfin, voilà. Après, on adapte. On peut travailler la même chose, mais en utilisant plusieurs outils. Donc,
finalement, encore une fois, on est assez similaire, du moins dans les compétences pédagogiques, on va dire, sur les temps classe. On se rapproche un peu du schéma d'une école de cycle 1 maternelle. Alors, il n'y a rien là-dedans de péjoratif. Au contraire, c'est que nos enfants, comme des enfants, encore une fois, ordinaires, surtout chez les petits, une concentration moindre. Enfin, voilà, on sait qu'au bout de 15-20 minutes, déjà, là, dans les apprentissages, ça peut devenir long. Donc, comme dit Émilie, on passe par plein d'outils, qui sont la musique, le chant, de manière rituelle, encore une fois, enfin ritualisée, pardon, tous les jours. C'est très important, autant qu'on le peut, de passer par des temps de libres de coloriage, de costumes, de jeux, de, on apprend à découvrir encore une fois les autres. Enfin voilà, c'est vraiment, on apprend autrement. Hein. Et puis on a le temps dans les dispositifs inclusifs. Enfin, si on perd ce temps-là, c'est, on perd tout. Au contraire, il faut leur laisser le temps de. Je le dis souvent avec les parents, c'est des discussions qu'on a aux périodes de rentrée. C'est accepter qu'ils prennent le temps, là, ces enfants-là qu'on accueille.
Donc de l'apprentissage, évidemment, ouais. Des activités d'éveil, des sorties aussi, et même des voyages. Hein. Il y a eu, il y a quelques temps, Disney, des sorties comme à Marçon, en Andivoile, il y a quelques jours. Voilà, c'est très diversifié. Et un voyage à la mer aussi, vous étiez il y a quelques temps, Saint-Malo. Voilà. Vous arrivez tout de même à les emmener, à ce qu'ils soient aussi séparés de leurs parents, de leurs repères. C'est des choses, j'imagine, compliquées à mettre en place, et peut-être pas avec tous les enfants de la classe?
Alors nous, on a à cœur d'emmener tous les enfants, parce que les enfants font partie de la classe.
Et c'est la classe dans sa globalité
voilà,
qui
participe. La classe dans sa globalité qui participe. Alors parfois, on a besoin de plus de moyens professionnels, humains, pour accompagner. Moi, je dirais que la force, c'est notre équipe, parce que malgré tout, on sait qu'on peut se faire confiance, on part sereinement avec les enfants. Tout ça pour dire que oui, tous les ans, on propose des nouveaux séjours, des nouvelles activités qui parfois pourraient faire les gros yeux de certains collègues en nous disant « mais vous êtes fous parce que c'est quand même un projet fou ». Mais nous, on y croit toujours et on veut toujours innover pour les enfants, leur faire découvrir de belles choses et créer des souvenirs, parce qu'on a des enfants aussi qui, par leur parcours familial, voilà, où c'est plus difficile. Et nous aussi, c'est notre mission de pouvoir créer des souvenirs et des souvenirs aussi en collectivité avec leurs copains de la classe.
Parce que si on prend Disney, par exemple, peut-être que les familles n'ont pas forcément les moyens ou l'idée de les emmener en se disant « ça va être compliqué ». Vous l'avez fait, il y a beaucoup de monde, c'est du bruit. voilà, j'imagine que cette journée a dû être... un petit peu stressante au début, mais elle a dû être super.
En fait, ouais, en effet, au début, on nous a dit « oula !» Mais et les parents, oui, il y en a beaucoup, des familles qui nous ont dit « non, mais en fait, nous, on n'aurait jamais osé le faire. »
Ils nous ont remercié aussi.
Ouais, c'est ça. On a dit « oui, il y a une maman qui avait les larmes aux yeux en nous disant « mais merci, en fait. » Et nous, quand on l'a fait, c'était extraordinaire, quoi. Deux jours intenses. Deux jours de folie, mais les enfants, ils étaient aux anges, quoi. Ils avaient des étoiles dans les yeux, le sourire pendant deux jours, c'était extraordinaire, quoi. Ouais. Très très bien. Des bons souvenirs, et du coup, on n'a pas envie d'arrêter.
C'est ça. On continue. Tous les ans, on propose des choses. On a eu le Futuroscope aussi, il y avait quelques années.
Mmh. On est parti en Auvergne,
On a fait Vulcania en Auvergne. Et là, cette année, on a pour projet en juin 2025, on aimerait emmener les enfants dans la forêt de Brocéliande, passer trois nuits et quatre jours dans la forêt de Brocéliande.
Encore une autre aventure, là.
Et oui, ouais. Tout à fait.
Et pourquoi Brocéliande? Parce que nos enfants sont, comme on le dit, des enfants avant tout. Et que c'est une terre de contes, des contes qu'on travaille souvent en classe. On va dire la mythologie arthurienne. Encore une fois, on l'adapte, mais c'est universel. Hein. Je pense que ça leur plaît beaucoup. Ça nous permettra d'aller normalement passer une journée à la mer. Et puis, il y a aussi un insectarium magnifique. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a la Porte des Secrets. Donc, c'est un musée interactif qui se situe à Paimpont, qui est magnifique. Voilà, donc si on peut leur faire vivre, encore une fois, 3 ou 4 jours de rêve dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, on va tout faire pour.
Et le gîte est placé dans une ferme pédagogique, et chose qui me tient moi particulièrement à cœur, parce que je suis formée à la médiation par l'animal, et la ferme propose des activités dans ce sujet-là. Donc,
voilà. Oui, on sait que les animaux, l'impact que les animaux ont sur... le handicap ou les personnes âgées aussi, un apaisement, puis les enfants prennent leur temps, là, voilà, il y a une relation qui se crée qui est très particulière.
Tout à fait.
Et donc, pour Disney, par exemple, vous avez eu l'aide du Rotary, Château du Loir, la charte, parce que ça a des coûts, et ça, forcément, des fois, les parents ne peuvent pas prendre en charge tout. Donc, vous faites appel à des associations, comme c'était le cas avec le Rotary, ou pourquoi pas, un appel aux dons.
Oui, là, on est en recherche de financement activement, sur des partenaires potentiels. On recherche le financement pour le séjour. À voir si ça se concrétise ou non. Dans tous les cas, si nous n'avons pas de financement, on ne partira pas.
Malheureusement, non.
Alors, un projet encore sur un long terme pour cette saison 2024-2025, où il y a eu, on va dire, un petit aperçu avec une journée en Andivoile, à Marçon, où il y avait 4 structures, il me semble, de personnes en situation de handicap. Ça allait de vous, les plus petits, à des personnes voilà, plus âgées de structures locales. Une belle journée pour démarrer cette année scolaire?
Oui, une très très belle journée. Alors, ce qui est très riche dans notre équipe, c'est qu'on a des passions communes et aussi différentes. Donc, chacun apporte des fois son énergie sur tel ou tel projet. Et là, bah, cette année, on est plus ou moins même tous d'accord sur la mer, l'océan. Alors, on va dire, c'est des rêves de grandeur pour les enfants comme pour les adultes. Hein, se retrouver face à l'océan, c'est toujours un grand moment, l'étudier aussi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Bah, c'est donc l'année du Vendée Globe. On avait déjà travaillé dessus il y a 4 ans avec une collègue de l'école, Gabrielle Legras. Et là, on a voulu faire cette année les choses en plus grand. Donc, il y aura des surprises. On ne peut pas tout révéler pour l'instant puisque ça dépend encore une fois de... Voilà, il y a des coûts assez onéreux sur certains projets. Mais notre idée, là, de vraiment travailler le Vendée Globe et l'océan a pu démarrer par une journée qui nous avait été donc offerte par le Rotary. C'est la journée en Divoile, en effet. Alors, cette journée-là, bah, elle a été... Alors certes sous la pluie, mais plutôt riche parce que à chaque fois le club donc du lac des Varennes nous a donc à chaque fois en fait s'adapte, connaissent bien nos jeunes et donc s'adapte à eux, leur permettent voilà quand il n'y a pas de vent bah d'essayer le bateau motorisé.
Je sais qu'il pleuvait beaucoup mais il n'y avait pas un peu de vent. Hein.
Non, tout à fait. Là, ça a vraiment été une journée et Isabelle donc la prof de voile voilà a pris le temps à chaque fois pour les jeunes de les arrêter au milieu du lac. On a pu observer leur regard. On a des jeunes comme je le disais qui vocalisent beaucoup habituellement en classe ou même qui peuvent crier un petit peu en boucle. Et ben là, sur le lac, pas un bruit. Et ça, je trouve que c'est encore une fois des preuves de l'attrait de l'eau. C'est vraiment un élément voilà, magnifique.
Oui, les monitrices disaient ils sont apaisés sur l'eau.
Tout à fait.
Il y avait un petit garçon, effectivement, qui criait beaucoup hors de l'eau, très agité. Mmh. Et une fois dans ce petit bateau, mmh. il mettait la main, il touchait l'eau et voilà, il bougeait plus, quoi.
Exactement.
Moi, juste pour compléter, je voudrais remercier le Rotary qui nous a offert cette journée et surtout Isabelle qui a pris le temps avec des enfants qui avaient peur de monter dans le bateau. Voilà, des appréhensions, des craintes et merci à elle d'avoir pris le temps pour cette journée et pour les enfants.
Il y avait même la présidente hein, départementale oui. de voile qui était présente et qui gère sur le plan régional l'aspect handi-voile. Mmh. Donc voilà, il y avait un bel accompagnement. On a vu voilà, des sourires.
Très, très
c'est ce qu'elle disait, que c'était le cadeau de la journée. Le sourire de ses enfants après cette expérience. Alors vous, le Vendée Globe, vous allez le suivre sur une période de 2 mois, c'est ça le...
Oui, tout à fait, 2 mois, oui, 2 mois.
Alors on rappelle, le Vendée Globe, c'est une course de voiliers autour du monde en solitaire. Et là, ce sera un travail de groupe, pas solitaire.
Tout à fait, nous on va le travailler en groupe. Alors, pourquoi le Vendée Globe? Je pense que c'est aussi un petit peu une passion voilà, qu'on a à plusieurs. C'est qu'est-ce qui se passe sur cette course que moi je trouve extraordinaire, c'est qu'on déjà on y trouve des hommes et des femmes. C'est un sport où là pour le coup on trouve vraiment tous les profils. On a des skippers plutôt jeunes et puis on a aussi par exemple Jean-Yves Lecam qui a 65 ans si je ne dis pas de bêtises. Moi je trouve que c'est porteur voilà, de messages très positifs sur les capacités qu'on peut avoir, qu'on peut tous avoir à des moments de sa vie différents d'ailleurs, qu'on soit un garçon ou une fille, parce que ça c'est des vraies questions aussi dans nos classes, comme en milieu ordinaire. Et donc le Vendée Globe, bah, ça apporte tout ça. C'est quand même des gens qui vont partir à l'aventure tout seuls. Moi, je trouve toujours ça... Je trouve qu'il y a quelque chose... Bon, je vais pas partir trop loin. Hein. Mais il y a un petit peu ce héros de l'Antiquité, là, voilà. Ça me fait penser à Ulysse qui part et qui va vivre quelque chose d'extraordinaire autour du monde et pouvoir les suivre parce qu'on a des petites nouvelles quotidiennes. Allumer ça le matin avec les jeunes de la classe et regarder où en est l'homme ou la femme que l'on suit, je trouve ça vraiment extraordinaire. Des fois, il y a des images sublimes de ce qu'ils peuvent voir autour d'eux.
Et vous allez suivre un skipper en particulier ou une skippeuse hein.
Alors là, on suit un petit peu, je pense, la même skippeuse que toutes les écoles de France, c'est Samantha Davis et le bateau Initiative Cœur. Voilà, c'est ce qu'on avait fait il y a 4 ans. Et puis, ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que les enfants vont progressivement, eux, trouver leur skipper préféré ou skippeuse et donc vont suivre un petit peu le leur dans leur famille ou autre. Et puis, on prendra le temps. Je repense à une élève voilà, qui s'était passionnée il y a 4 ans pour Jean-Yves Lecam, justement. On avait pris le temps aussi le matin de prendre de ses nouvelles à lui ou de Clarisse. Voilà, enfin, chacun pourra aussi suivre celui qu'il a envie. Et puis ça permet exactement enfin, de travailler le monde marin, de travailler ce qu'on peut faire sur la mer, comment on l'utilise, comment on la protège. Là, le chantier pédagogique autour de l'océan est gigantesque et du Vendée Globe. Et c'est vraiment un support d'entrée, je trouve, parfait.
Donc ça va être votre fil conducteur sur une bonne période
au moins jusqu'en voilà, début février, oui, tout à fait.
Le projet, c'est Calypso sur Loire ou du Loire?
Calypso. C'est ça. Alors la Calypso, oui. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué cette partie-là. C'est parce que étant enfant, j'avais une passion pour Cousteau. Voilà, et je me suis dit, mais oui, lui aussi, il m'a un petit peu donné, on va dire, le virus de la mer. Et alors j'ai découvert à l'âge adulte qu'il était finalement moins scientifique que ce que je pensais. Mais donc je me suis dit, tiens, je vais utiliser moi aussi son image pour créer quelque chose avec les enfants qui va leur donner envie de partir à l'aventure. Et c'est ce qu'on a fait. On a baptisé notre classe la classe Cousteau. Et on va étudier aussi son bateau, la Calypso. Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'on découvre encore aujourd'hui? Alors le tout, bien sûr, simplifié. Encore une fois, on individualise normalise les apprentissages, mais voilà, je trouve qu'il y a une espèce d'effervescence chez tous ces hommes et puis ces femmes qui ont fait de la mer un petit peu leur vie. Et je trouve ça voilà, un moteur encore très puissant chez les enfants et chez les enfants porteurs de handicap aussi.
Ils auront tous leur petit bonnet rouge.
On y a réfléchi, mais bon, comme les budgets sont serrés, on se dit que peut-être l'achat d'un bonnet rouge...
Il faut dépenser et garder l'argent pour, voilà,
pour le séjour.
Parce que par contre, je me permets de le dire et j'espère qu'on pourra le faire, ce serait une journée fantastique, mais le 7, je ne dis pas de bêtises, le 7 novembre, on devrait se rendre au village du Vendée Globe avec deux classes de l'école Gabriel Legras. Et ça, pour nous, c'est une victoire, on va dire, sur tous les fronts. C'est de l'inclusion parce qu'on va partager un quart, on devrait partager le repas et puis on va partir tous très tôt le matin en quart. On va arriver là-bas... Voilà, rencontrer en tout cas le monde des IMOCA, alors les IMOCA, les bateaux donc du Vendée Globe.
On sent le passionné là.
Mais, on l'a pu là.
Voilà, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire de cette journée-là et j'espère que voilà, pareil, encore une fois, ça a un coût important, mais qu'on y arrivera.
Et puis bah voilà, le projet, c'est aussi continuer que la radio vous suive hein, dans le cadre
tout
de cette émission Un autre regard. Avec des pastilles, des petites chroniques, voilà, comme vous avez fait l'année dernière. Et là, on sera autour de ce beau projet. Et c'est toujours avec plaisir qu'on vous suit, en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous avez d'autres projets encore sur l'année ou c'est déjà énorme? Entre le projet mère, Brocéliande, et puis les apprentissages à acquérir tout au long de l'année. Hein. Vous manquez de temps, des fois?
On est peut-être trop ambitieux et on a peut-être envie de faire beaucoup de choses dans
Mais c'est faut être moteur aussi pour ces enfants
dans l'année voilà. Et voilà, des fois on se calme et on se dit bon bah si on arrive à faire telle et telle chose, c'est déjà bien. Donc non, ces projets-là sont les moteurs de cette année. On a des projets et des activités à l'année qu'on suit toutes les semaines. On a un projet randonnée, on a un projet adaptation de King Kong en spectacle parce qu'on fête les 70 ans de la DAPI en 2025.
Tout à fait. Et je rajoutais que dans notre histoire, Cousteau s'est perdu sur l'île du crâne de King Kong. Donc voilà, on a réussi un petit peu à rebondir. Voilà.
Créer du lien.
C'est ça, exactement. Ils se sont pris de passion donc pour King Kong.
Du coup, oui, on a des projets à l'année qu'on suit et des activités. Du coup, le jeudi, on a la randonnée. C'est les grandes activités de la semaine. Après, on fait des temps d'apprentissage sur la classe. Et sur l'IME, on accueille aussi sur certains temps aussi des jeunes de l'école Gabriel Legras qui viennent en activité aussi avec nous pour partager des temps et que l'inclusion n'est pas dans un sens, mais plutôt dans les deux sens et qu'elle est réciproque. Voilà.
Tout à fait. On a aussi des richesses presque autant que les collègues peuvent nous en amener que nous, on espère amener aux élèves de l'école. Tu as raison, c'est intéressant de le souligner.
Et pour finir, une question un peu plus personnelle, pourquoi vous, Jean-Baptiste, par exemple, choisir d'enseigner dans cette place plutôt qu'une classe ordinaire? Vous êtes toujours dit, j'aimerais devenir prof, Oula. Enseignant, ou c'est la vie qui a fait que vous êtes arrivé par là?
Alors moi, encore une fois, j'espère que ça ne va pas être trop long, je m'excuse auprès des auditeurs et auditrices. Eh bien non, parce que je dirais que vers 17-18 ans, je voulais être archéologue. Voilà, c'était la grande passion de ma vie. Alors en fait, je n'ai fait qu'un seul chantier, c'était dans le Nord-Sarthe. En plus, c'est pas très exotique, mais voilà, j'étais passionné de préhistoire. Mais pour financer mes études, j'ai fait de l'animation l'été au centre aéré de la ville du Mans. Et là, j'ai découvert par contre une nouvelle passion, c'était l'enfance. Est-ce que j'ai un syndrome de Peter Pan? Mais être entouré d'enfants, c'est toujours quelque chose qui m'a motivé, que je trouve porteur, autant pour eux que pour nous. Et donc, à l'époque, une collègue animatrice, ma directrice, me dit « Mais écoute, pourquoi tu ne tentes pas le master enseignement ?» Et je me suis lancé. Et pour après financer ce master, j'ai travaillé comme AESH en collège. Donc d'ailleurs, un petit coucou à tous les élèves, si jamais ils m'entendaient. Enfin, mes anciens élèves qui ont maintenant la vingtaine, j'imagine. Le temps passe. Et donc, j'ai découvert voilà que... y avait des enfants qui avaient besoin d'une autre approche, que ce soit handicap physique ou mental, qui avaient des fois des choses un peu plus importantes à créer pour que l'enfant puisse y arriver. Et donc, en bout de master, on m'a dit, mais finalement, essaie les IME. Et c'est vrai que je ne le regrette, même s'il y a des moments compliqués, je pense qu'il faut le dire aussi, mais je ne le regrette pour rien au monde. C'est, je pense, un métier qui nous remet beaucoup en question, mais qui nous fait beaucoup de bien au quotidien. Vraiment. Et j'insiste, parce qu'il n'y aurait pas cette équipe, je pense que ce serait difficile, même trop difficile, mais d'être aussi bien entouré, c'est... Voilà, moi je le dis souvent, mais je suis à peu près convaincu de faire un des plus beaux métiers du monde.
Et il faut une formation spécifique au bout du master, il y a un module particulier pour pouvoir, c'est pas le même public que si on est enseignant en classe ordinaire.
Tout à fait. Alors quand je suis arrivé, non, je n'avais rien de plus qu'un enseignant ordinaire. Et peut-être que finalement, ça m'a apporté aussi au début, comme le disait ma collègue, de passer au-dessus de certaines questions, des pathologies, de... J'ai amené finalement...
Vous aviez un enfant devant vous, point barre.
C'est ça, voilà, j'avais un enfant devant moi. Je me dis que ce qui marche pédagogiquement en milieu ordinaire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si moi, je prends plus le temps, si je l'adapte, voilà, un petit peu. Mais... Et finalement, ça a plutôt bien marché, bien sûr, qu'ensuite, après l'association, l'ADAPI 72 nous permet de nous former. Et c'est vraiment, c'est capital. Hein, parce qu'arrive aussi, voilà, des fois, d'autres problématiques qu'un enseignant ne peut pas maîtriser. Heureusement que d'ailleurs, j'ai mes collègues aussi, encore une fois, éducatrices, qui me permettent de me positionner ou d'avancer sur ces questions de comment réagir face à certaines situations. Mais voilà, ces formations, elles deviennent nécessaires, mais elles nous sont proposées d'année en année et c'est vraiment justement un enrichissement permanent. Parce que c'est, après, il faut les mobiliser, ces formations, il faut les faire vivre. Et donc tout ça, c'est un défi ouais, plutôt extraordinaire.
Vous êtes enseignant depuis combien de temps dans ce...
C'est ma 7e rentrée cette année sur la classe. Et ça, de le dire, ça fait mal parce que wow, ça passe très très vite.
Et vous, Adeline, éducatrice, voilà, auprès d'un public bien particulier, c'était quelque chose aussi en vous, il y a eu un déclic qui a fait que vous êtes dit, c'est ce que je veux faire.
Alors moi, je pense que la relation d'aide, je l'ai depuis très longtemps. Après, je ne pensais pas m'en faire forcément mon métier, mais dans mes plus jeunes souvenirs, déjà à l'école où j'étais petite, il y avait des enfants en difficulté et les maîtresses remerciaient ma mère de l'aide que je pouvais donner à ces enfants-là. Donc, sans m'en souvenir, c'est des...
C'était en vous, en fait.
Voilà, c'est des choses qu'on m'a rapportées. Après, j'ai tout de suite trouvé ma voie sur... le diplôme d'éducatrice. Alors, à la base, je suis monitrice éducatrice sur un poste d'éducatrice spécialisée parce que j'en ai les fonctions. Moi, c'est la relation d'aide, prendre l'enfant où il en est et l'emmener à grandir et à devenir autonome au maximum avec une équipe pluridisciplinaire, encore une fois, sans lequel on ne pourrait pas être complémentaire et les faire évoluer autant que nous, on peut le faire. On est là tous les trois, mais on a aussi une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue, la chef de service qui, pour moi, est aussi un pilier de l'équipe. Donc, sans cette équipe... Et on a aussi notre infirmière, pardon, que j'aime beaucoup, hein, y a pas de problème, mais qui est là aussi et qui prend aussi des jeunes sur des temps de relaxation à l'IME. Donc, moi, la relation d'aide était pour moi assez facile.
Et vous, Émilie ?
Moi, je crois que j'ai toujours voulu faire ce métier plus jeune. Enfin, je savais en fait vers quelle trajectoire j'allais. J'ai fait mes études au lycée Nazareth. Et puis, j'ai fait autre chose quelques années. Puis, je suis revenue à mes envies de début. Donc, j'ai travaillé pas mal avec les adultes dans les foyers qui sont par ici. Et puis, j'ai eu la chance, la vie m'a amenée à l'IME. Et j'ai découvert le monde de l'enfance. Voilà, c'était un travail complètement différent, un accompagnement totalement différent. Mais voilà, moi, j'ai adoré, quand je suis arrivée, déjà, l'équipe a été porteuse. Hein, tout de suite, m'ont conseillé, aidé, accompagné, enfin voilà, pour tout. Oui, j'aime ce que je fais. Je accompagne les enfants. Ils arrivent, ils sont petits, on les voit grandir, en effet, on les voit prendre en assurance, être autonomes. Et puis, en fait, nous, on est le début de l'échelle, donc ils arrivent tout petits, on les voit grandir vraiment, ils partent à 20 ans de l'IME, donc on les voit évoluer. Quoi.
Devenir
et ça, c'est chouette. Quoi.
Au quotidien, c'est quand même assez fatigant, mais tellement enrichissant.
Ouais, c'est fatigant,
c'est
oui, en effet.
Quoi,
c'est, voilà. Ouais, c'est un métier qui est très énergivore, hein. On est fatigué, on a quand même la chance d'avoir quand même des congés conséquents quand même par rapport à un métier lambda, on a plus de congés que n'importe qui, enfin, sauf des enseignants en tout cas.
Mais je le sentais venir.
Mais en effet, ça demande beaucoup d'énergie. Après, je pense qu'il faut, pour faire ces métiers, il faut être dynamique. Voilà, il faut être présent, il faut être là. C'est pas possible
si on
de
y
faire
pas.
Ce métier si on n'a pas l'envie et le dynamisme pour le faire.
Donc pour vous, voilà, vous avez trouvé votre voie.
Oui,
tout à fait.
Oui.
Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter, aussi bien sur le dispositif, sur les projets, pour conclure cette émission ?
À titre personnel, j'aimerais en profiter pour remercier donc vraiment l'équipe du dispositif inclusif, que ce soit au sens large, hein, Château du Loir, La Flèche, pour tout ce qu'on fait ensemble, surtout mon équipe restreinte de l'IME, donc mes collègues qui sont là, et puis toutes celles qu'on vient d'énumérer, la petite équipe de 7-8 personnes. C'est pour ça aussi que ce travail il est épanouissant. J'aimerais remercier les collègues de l'école ordinaire Gabriel Legras qui nous permettent de faire plein de choses, la municipalité de Montval également, mais j'y reviens, ce dernier triangle il est très important avec l'école ordinaire, le dispositif dispositif inclusif, il faut qu'on puisse continuer, voilà, de, et la mairie, de faire vivre ensemble toutes ces choses. Et remercier les parents qui nous font confiance, et les enfants, mais ouais, vraiment les parents, parce qu'encore une fois, si le dialogue avec eux, il est important de laisser du temps à leur enfant, ils nous y aident et je trouve ça vraiment super. Voilà, merci à tous
et
ces gens.
Et puis, je reviendrai moi sur les parents, tout à fait, les parents et les assistants familiaux, oui, qui nous aident aussi dans la compréhension de leur enfant, parce que c'est quand même eux qui les connaissent mieux que nous. Quand ils arrivent sur la classe, nous, on a besoin de connaître leur enfant et on n'a pas forcément leur connaissance. Et donc, ce lien, le lien concret qu'on tisse avec les parents et les assistants familiaux, il est essentiel pour un travail, pour faire grandir leur enfant et aller loin avec.
Et pour terminer, moi je parlais de bienveillance. Voilà, nous, je crois que c'est la base de notre métier. On est dedans tout le temps. Et ce qu'on cherche, oui, c'est la bienveillance et que les enfants arrivent à s'épanouir dedans, quoi, dans cette bienveillance-là. Et on essaye de minimiser, en tout cas, tout ce qui peut être violence, comportement inadapté. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
De nous
merci
avoir fait découvrir le dispositif dont on parle sur l'antenne depuis un an sans vraiment tout le connaître. Et puis on va décliner au fil de l'année les émissions, les diffuser de ce que vous nous ferez, ce que vous produirez pour les projets que vous avez. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Un autre regard avec le dispositif inclusif du Val du Loire.